www.radio-g.fr.
Bienvenue à Solidaire Monde, l'émission préparée pour le collectif Solidaire Monde, qui donne la parole aux acteurs de la solidarité sous toutes ses formes, ici et ailleurs, un jeudi sur deux, de 19h à 19h30 sur Radio G 101.5 FM. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et nous espérons vous avoir comme fidèle auditeur tout au long de cette année 2020. Nous accueillons aujourd'hui Sylvie Rabouin, directrice de l'association Aide-Accueil, que certains Angevins connaissent sûrement. Bonjour Sylvie.
Bonsoir, enfin ou bonjour.
Aide-Accueil, comme son nom l'indique, accueille et aide les personnes en difficulté qui vivent dans la précarité. Alors, voudriez-vous nous dire, pour commencer, depuis combien de temps elle existe, où se trouvent ses locaux à Angers, et qui la compose, quelles sont ses missions principales surtout?
Alors donc l'association Aide-Accueil est une association loi 1901 qui a été créée en fait en 1985 sur la volonté en fait de la ville d'Angers et à l'époque du Secours catholique qui constatait qu'un certain nombre de personnes erraient dans les rues d'Angers, étaient en grande précarité. À l'époque on parlait plutôt des clochards et l'idée c'était de pouvoir ouvrir en fait un lieu d'accueil où ces personnes pourraient se poser, se restaurer, faire aussi tout ce qui était autour de l'hygiène corporelle, donc prendre des douches et puis bien sûr avoir des contacts humains avec les bénévoles, puisqu'à l'époque c'était une grosse équipe de bénévoles, il y avait plus de 70 bénévoles qui se relayaient en fait quotidiennement pour pouvoir accueillir ces hommes et ces femmes qui étaient dans l'errance dans le centre-ville d'Angers.
Déjà dans le local ?
Alors toujours effectivement dans les locaux de la ville d'Angers situés aux 3 rues de Crimée. Donc c'est vraiment une association qui est au, au centre et au cœur de la ville et qui du coup, de par sa localisation géographique, permet d'accueillir et de répondre aux besoins des personnes qui sont toujours aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes, mais en tout cas on constate qu'il y a toujours une errance importante et du coup de pouvoir accueillir quasiment quotidiennement ces personnes pour pouvoir pour qu'ils puissent se restaurer, pour qu'ils puissent trouver un lieu d'échange, un lieu d'expression de leurs besoins, un lieu où les professionnels peuvent aussi leur donner des conseils, notamment des conseils d'orientation pour aller vers des partenaires compétents et de pouvoir répondre au plus juste au niveau de leurs attentes.
Alors donc, les principales missions, en quelque sorte, des accueils sont accueillir, vous venez de le signaler, alimenter, nourrir, héberger et aussi réinsérer socialement et professionnellement si possible. Alors, pourriez-vous nous parler un petit peu plus de chacune de ces missions et de quels locaux disposez-vous pour cela d'ailleurs ?
Alors, au niveau de nos, en fait, au niveau de nos activités, il y en a une en fait qui est vraiment historique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la restauration sociale. C'est-à-dire que six jours sur sept, nous accueillons des personnes pour le déjeuner. Et en fait, cette activité-là est assurée et depuis la création en fait de l'association par une équipe d'une trentaine de bénévoles qui se relaient en fait six jours sur sept pour accueillir et servir des repas. Parallèlement à ça, 6 jours sur 7, nous accueillons aussi tous les matins pour le petit déjeuner. Donc toujours ce public en grande précarité. Et puis nous avons également un accueil de jour qui est situé place Léon Jouault à Angers, où les gens peuvent se laver, laver leur linge, il y a une bagagerie sociale, mais également tout ce qui est autour du lien social avec les collègues qui sont agents d'accueil.
Derrière le lieu se trouve derrière le...
En fait, c'est juste à côté de la Bourse du Travail.
C'est ça.
En fait, c'est une petite place. Et en fait, les locaux de l'accueil de jour, enfin ce que nous on appelle l'espace Léon Jouault, c'est les anciennes douches municipales. Voilà. Donc ça, c'est ouvert depuis quelques années. Et puis, parallèlement à ça, nous avons, en fait, l'association loue aujourd'hui presque 150 logements auprès de bailleurs publics ou de bailleurs privés pour pouvoir héberger les personnes en fait qui sont dépourvues de logement ou qui pour différentes raisons ont perdu leur logement. Et l'ensemble de ces ménages en fait est accompagné par un travailleur social de l'association. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons une équipe, enfin nous sommes 28 salariés et au sein de cette équipe de salariés nous avons des agents d'accueil, bon bien sûr secrétariat, nous avons également un poste de gestion locative puisque comme je vous le disais nous avons 150 logements, il faut qu'on puisse assurer en fait la gestion de tout ce parc.
Et ces logements sont situés sur la
Alors,
ville
surtout Angers, Angers-Loire Métropole et quelques-uns sur Segré. Voilà. En fait, la localisation des logements est en fonction, bien sûr, des attributions que nous avons. Par contre, nous sommes toujours extrêmement vigilants à ce que ces logements soient à proximité de moyens de mobilité, enfin, pour que les personnes aient une mobilité confortable, on va dire, de manière à pouvoir se rendre à leurs différents rendez-vous. Mais également, en fait, on a effectivement toute cette équipe de travailleurs sociaux qui les accompagne dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle. Donc quand on dit insertion sociale et professionnelle, c'est tout ce qui est accès aux droits, recherche de logement, accès à l'emploi, les démarches liées à la santé, la parentalité, l'accès à la culture, aux loisirs, au sport. Enfin voilà, on essaie en tout cas de répondre à l'ensemble des besoins de manière à pouvoir aller vers, alors dans notre jargon on parle de droit commun, mais en tout cas qu'ils aient leur logement à eux. Et si on peut aller plus loin, en fait, qu'ils retournent vers l'emploi, qu'ils aient une vie, en fait, un peu comme tout à chacun.
Tout le monde.
Voilà, hein, en fait, l'idée, c'est vraiment de les rendre autonomes et que, eh bien, nous, quand nos missions sont terminées, que les personnes puissent retrouver un statut de droit commun à part entière.
Bien, alors donc je suppose que pour pouvoir exercer toutes ces missions et faire face à tous ces besoins, il vous faut un personnel effectivement très compétent. Alors nous allons en parler tout à l'heure, mais maintenant on marque une petite pause musicale au cours de laquelle nous allons écouter encore un autre hiver chanté par les Enfoirés.
Encore un autre hiver. Un hiver ordinaire, des familles à la ramasse et des soupes à la grimace.
Encore des mots sans cesse, des serments, des promesses,
nos illusions qui s'envolent au vent des belles paroles.
Sous notre bleu, blanc, rouge impuissant, rien ne bouge.
Encore un horizon, comme un mur de prison. Des prophètes et des archanges, mais jamais rien ne change.
Encore toutes ces enfances,
mais du coup toute pas de chance.
Des parents qui démissionnent et des écrans qui fonctionnent.
Mais qu'ils soient bleu, blanc, rouge, les vœux. Les discours,
rien ne bouge. Il était un pays qu'on citait en exemple, qui disait droit de l'homme, égalité des chances. Un pays de bien vivre autant que d'espérance. Il était une fois un bon beau pays de
Encore un autre hiver, et si peu de colère.
Les plus fragiles qui cassent,
et que veux-tu qu'on y fasse?
Encore un peu d'espoir, de moi laid, de moi noir. Partout des femmes et des hommes qui se lèvent et qui donnent. Encore une chanson. Qui dit simplement non. Des notes qui lèvent encore, mais restent contre le sort. Encore, encore.
Et des gens qui bougent encore.
Encore, encore.
Et des gens qui rêvent encore.
Encore, encore.
Pour inverser les sorts.
Encore, encore.
Et pour y croire encore.
Encore, encore.
Alors, je voudrais bien vous demander, justement, comment vous travaillez, hein, avec qui, et surtout, à qui vous vous adressez, et quel est votre public? Vous avez fait un petit peu allusion, mais peut-être qu'on peut en parler un petit peu plus. Hein. Mm-hmm.
Donc, en fait, le public en grande précarité, ce sont des personnes qui, enfin en tout cas le public que nous accueillons à Aide Accueil, sont des hommes, des femmes, des couples avec ou sans enfants, des familles monoparentales, qui sont tous dépourvus en fait de logement. Donc, en fait, quand on dit dépourvus de logement, ça veut dire que ce sont des gens qui, potentiellement, peuvent être à la rue, peuvent être dans des squats, hébergés chez des tiers, qui peuvent aussi être hébergés sur des centres d'hébergement d'urgence ou sur le site de mise à l'abri de chemin de traverse, ou alors dans des situations très compliquées de surpeuplement dans des logements ou en mesure d'expulsion locative pour différentes raisons. Du coup, ça, c'est vraiment ce qui caractérise, j'ai envie de dire, le public, puisque nos missions, enfin, une de nos missions essentielles, c'est effectivement de travailler l'accès au logement. Parallèlement à ça, ce sont des personnes qui, enfin, quand on parle de grande précarité, ça sous-entend que ce sont des personnes qui cumulent, en fait, tout un ensemble de difficultés. Donc, l'absence de logement n'est pas isolée, j'ai envie de dire, hein. Il y a toujours
Il y a tout un ensemble
qui fait, mais souvent, on retrouve des personnes qui sont bénéficiaires des minima sociaux, mais aujourd'hui, pour toute une frange du public, notamment les plus jeunes, qui peuvent être sans ressources, des personnes qui sont souvent aussi dans des situations de rupture affective, et pour certaines d'entre elles, depuis leur naissance ou en tout cas leur plus jeune âge, des personnes qui sont au chômage et qui ont beaucoup de difficultés à retrouver de l'emploi. Alors pour différentes raisons, hein. Il y a la question de l'employabilité, mais il y a aussi la question que quand on est dans la précarité et dans l'errance, entre autres tout ce qui est autour de la présentation de soi, la confiance en soi, en fait il faut vraiment restaurer ça pour que la personne puisse s'engager et mettre de l'énergie, parce qu'en fait être dans l'errance ça demande beaucoup d'énergie, parce que tous les jours on cherche pour se loger, se nourrir, se vêtir, enfin voilà, donc c'est vraiment énergivore en fait, hein, dans leur vie quotidienne. Et l'idée, enfin, enfin, ils ont besoin en fait de trouver des lieux, mais aussi des professionnels qui vont avoir du temps, une écoute aussi très particulière, pour pouvoir construire avec eux petit à petit en fait un projet.
Voilà. Alors, donnez-nous des exemples là
de voilà. Situations. Ouais. Bah, écoutez, on a des personnes en fait qu'on accueille sur des places, enfin, on va dire des places d'hébergement, hein, le CHRS d'insertion. Alors, la particularité, parce qu'il y a aussi des représentations sociales sur ce qui est un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Aujourd'hui, le CHRS que nous portons donc a 30 places. Ces 30 places sont réparties dans 20 logements, et du type 1 au type 3. Et en fait, dans un type 1, c'est une personne seule, et dans un type 3, ça va être une famille avec des enfants ou un couple avec des enfants. Donc, on essaie de mettre au plus proche, enfin, au plus près, j'ai envie de dire, de la réalité, les personnes dans une situation d'habiter. Donc, on travaille avec eux, comment on habite un logement, comment on règle son loyer, comment on vit aussi dans un environnement locatif, comment on se déplace en fait pour faire ses démarches, pour aller vers les lieux ou les structures dont on a besoin, notamment au niveau administratif.
Enfin, voilà, c'est là qu'il vous faut du personnel parfaitement.
Et c'est là où il faut effectivement des collègues qui prennent ce temps, qui est... alors c'est vrai qu'il faut être motivé, hein, pour pouvoir travailler au quotidien avec ces personnes, parce qu'on a aussi des personnes qui ont des problèmes d'addiction, des personnes aujourd'hui qui sont aussi dans des situations de souffrance psychique très importantes. Donc du coup, c'est vrai que c'est un travail au quotidien qui nécessite en fait d'avoir des valeurs humaines, et en tout cas d'avoir aussi l'esprit ouvert, j'ai envie de dire, pour pouvoir accompagner ces personnes. Mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment leur donner l'énergie pour pouvoir en fait se remettre en situation ou en position d'aller, et que la situation évolue. Donc d'aller vers du logement, enfin le jour où on signe son bail, souvent c'est un moment d'émotion. Parce que les gens des fois ont du mal un peu à y croire, c'est ces meubles, on va s'assurer, on va devoir payer un loyer, donc à la fois c'est de l'émotion, je dirais, plutôt positive. Et puis après, il y a toute la partie un peu angoisse de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir, est-ce que mes voisins vont être comme ci, comme ça. Enfin voilà. Donc c'est vrai que nous, on est là pour étayer en fait hein, ce parcours, mais aussi les rassurer, les valoriser. Enfin, en fait, ces personnes-là savent faire plein de choses, mais elles ont perdu un peu l'habitude. Et c'est surtout qu'il y a, que personne vient. Enfin, la valorisation de leurs compétences est essentielle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans une situation difficile qu'on ne sait pas faire des choses, qu'on ne sait pas habiter un logement, qu'on ne sait pas être en relation tout simplement avec l'autre. Enfin voilà, il y a énormément de choses en fait qu'on essaye de restaurer.
Alors, parmi le personnel des salariés de l'association, les gens sont formés dans des démarches particulières, par exemple en ce qui concerne le logement, la réinsertion sociale, l'hébergement. Comment ça marche là?
Alors, en
qui
fait,
sont les personnes qui travaillent?
Ben oui, oui. En fait, une grande majorité de l'équipe sont des travailleurs sociaux diplômés. Donc, on retrouve des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, des conseillers en économie sociale et familiale. On a également des personnes qui sont plus autour de la gestion de la vie quotidienne, enfin, soutien à la gestion de la vie quotidienne. Donc, on va retrouver des TISF, des intervenants sociaux. On a également des agents d'accueil qui, eux, ont été formés aussi sur la médiation sociale. Et en fait, ces professionnels ont des formations qui sont en adéquation par rapport à
aux
besoins, mais aussi ce qu'on entend, j'ai envie de dire dans notre langage, tout ce qui est autour de l'accompagnement social et avec les grands axes d'intervention que sont l'insertion sociale et professionnelle.
Combien sont-ils?
Donc en fait, on a 19 travailleurs sociaux ou intervenants sociaux aujourd'hui et 6 agents d'accueil. Voilà.
Oui, ça fait 25 au total. C'est,
voilà.
C'est
bien. Ouais.
Alors, bon, c'est bien, tout ça, c'est très intéressant. Alors, je suppose que vous n'êtes pas seul, en quelque sorte, que l'association n'est pas seule pour faire face à tous ces besoins, et que vous avez aussi ce qu'on appelle des partenaires. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu avec qui vous travaillez, et surtout, que vous apportent ces partenaires?
Alors, il est vrai que on ne peut pas travailler tout seul. Ça, c'est indéniable. Du coup, on a développé des partenariats, j'ai envie de dire, dans tous les champs ou dans tous les domaines dans lesquels nous intervenons. Donc, on a des partenariats avec les bailleurs sociaux du territoire. On a avec des bailleurs privés. Parce qu'en fait, on loue à peu près 90% auprès de bailleurs sociaux, mais 10% auprès de bailleurs privés. Mais on a également toutes les administrations, la CAF, la MSA, la Sécurité sociale, le CCAS d'Angers, j'en oublie, mais la Banque de France. Enfin voilà, on a vraiment développé un partenariat étendu. On a aussi développé un partenariat par rapport à tout ce qui est autour de l'insertion professionnelle. Donc là, on a beaucoup travaillé, on développe encore avec les chantiers d'insertion comme le Jardin de Cocagne, l'ASDS à Segré, les Restos du Cœur, la MS, Resto Troc. Enfin voilà, on a un certain nombre de partenaires un peu privilégiés. On travaille également de plus en plus avec la santé, le domaine de la santé, donc notamment avec le Sésame par rapport à la prise en charge de la souffrance psychique, mais également au niveau alors plutôt sanitaire et côté aide à la gestion de la vie collective et aide à domicile avec l'association Via Dom. On essaie en fait de développer et d'accroître notre partenariat en fonction de l'évolution des besoins des publics que nous accueillons. Et il est vrai que je prends toujours un peu l'exemple de la chaise à quatre pieds. Vous avez le logement, l'emploi, l'accès aux droits et puis la santé. Et il manque un pied. Souvent la chaise, voilà. Alors, effectivement, on pourrait rajouter le dossier, mais enfin voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'aller que les réponses apportées puissent permettre un certain équilibre et une stabilisation en fait de la situation des personnes.
Oui. Alors bon, pour faire tout ça, vous avez besoin certainement d'un budget important. Vous avez quelques subventions, j'imagine, quand même, pour vous aider.
Alors, l'association, oui, est subventionnée à 100%. En fait, on a, alors, de par nos missions et le public que nous accueillons, en fait, nous sommes subventionnés à 80% par les services de l'État, à peu près 10% par le conseil départemental, et puis également 10% par le CCAS et la ville d'Angers. Voilà. Et nous sommes toujours à la recherche, bien sûr, de fonds. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on sollicite aussi du mécénat pour pouvoir toujours développer ou expérimenter en fait de nouvelles actions. Donc par exemple, ce qui nous a permis de développer depuis quelques années quelques places d'hébergement pour les sortants de prison, puisque nous avons une action spécifique en fait auprès de ce public-là.
qui est aussi un public très particulier
et
qu'il faut savoir accueillir.
Et puis là,
écoutez, Sylvie nous voilà bien informés hein, sur l'originalité, les spécificités des d'accueil. Alors, avant de conclure, une petite pause musicale. Nous allons écouter Métavolution, chantée par Rodrigo et Gabriela. Donc n'importe qui est dans le besoin peut venir frapper à la porte du 3 rue Crimée à Angers. Il sera bien accueilli, bien pris en charge. Pour terminer, Sylvie, je voudrais vous poser une question sur ce qu'on pourrait appeler l'utilité de ce que fait l'association. Car on dit souvent que accueillir les déshérités, ça coûte cher à la société, c'était en fin de compte aux contribuables, et qu'on en fait peut-être trop pour eux, je ne sais pas. Alors qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors c'est une question c'est une question intéressante. C'est vrai que sans doute que ça a un coût, hein, c'est indéniable. D'un autre côté, je pense que la solidarité, et en tout cas la France a une valeur qui est celle de la solidarité, de pouvoir prendre en charge en fait toutes les personnes dans le besoin sur son territoire. Moi je pense que en fait, les actions que nous menons, alors aide accueil, mais également d'autres associations, c'est quand même tant qu'on a, j'ai envie de dire, les moyens d'accompagner, d'accueillir et d'accompagner les gens aussi loin que possible, c'est quand même un investissement entre guillemets intéressant. C'est-à-dire que on évite à la personne, par exemple, d'être hospitalisée parce qu'on sait que l'errance entraîne aussi des problèmes sanitaires. On évite aussi à certaines personnes d'être en rupture ou même de commettre des actes, délictueux ou En tout cas, j'ai envie de dire que c'est aussi une question de prévention et de protection du public. Ou du public ou de ces personnes-là. Donc je pense que parler de coûts, c'est... j'ai presque envie de dire que c'est pas anecdotique, parce qu'on peut pas dire ça vu les sommes effectivement qui sont versées.
Oui,
hein.
Oui. Mais
en tout cas, je préférais dire un investissement qui permet de la restauration en fait.
Voilà,
des
c'est
personnes.
Ça qui est important de montrer, c'est que ce n'est pas un coût au sens strictement économique, même s'il y a un petit peu le cas, mais c'est par rapport à ce qu'elle apporte aux personnes, quoi.
Ouais. Oui, et puis après, nous, on n'est pas... parce que tout à l'heure, vous me disiez, bah oui, on ne sait pas ce qu'il y a derrière vos murs. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de communication, hein, des associations comme les nôtres. Mais pour
alors,
autant...
c'est le moment, alors, peut-être oui, que vous avez envie de dire...
Mais c'est vrai que, si vous voulez, après, si on compare à d'autres domaines du social ou du sanitaire, en fait, on est plutôt les enfants pauvres au niveau des dispositifs. Hein. On n'a pas des moyens, pas des moyens considérables. Mais je pense que, voilà, on est essaye toujours de répondre, de prendre en charge en fait ces publics, même des fois quand on n'en a pas forcément toujours les moyens ou en tout cas on n'a pas toujours la possibilité, mais je veux dire qu'on va se débrouiller pour pouvoir trouver une solution, même si elle est temporaire, mais en tout cas on essaye toujours.
Alors s'il y a des gens qui veulent aller vous retrouver comme bénévoles, ils sont bienvenus.
Alors oui, tout à fait. Effectivement, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, alors notamment sur la restauration sociale, hein, qui pour accueillir les gens pour venir se restaurer. Mais également, on a un espace animation sur lequel, en fait, on organise un certain nombre de choses, des sorties culturelles, l'accès au sport, mais également, on travaille sur tout ce qui est réduction de la fracture numérique avec l'idée de rendre les personnes autonomes, en fait, dans leur démarche dématérialisée, puisqu'aujourd'hui, on est tous confrontés à ça. Et ça peut être un handicap quand on n'a pas l'équipement et quand on ne sait pas bien servir des outils.
Alors, Sylvie, vous êtes directrice d'accueil depuis 2001. Alors, vous allez continuer, vous allez poursuivre, pourquoi ?
Eh bien, pourquoi ? C'est une bonne question. En fait, il y a tellement de choses à faire et il y a tellement encore beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que ce public-là est très attachant, en fait. À chaque fois, ce sont des rencontres, hein, même si des fois, c'est pas facile, mais à chaque fois, ce sont des rencontres et on a envie d'y croire. Voilà, on a toujours plein de projets, on a toujours plein d'envies, on est toujours en train de repérer des besoins ou en fait envie de faire évoluer aussi les dispositifs, la prise en charge, même le partenariat en fait, aller vers d'autres partenaires, c'est extrêmement riche, s'acculturer aussi avec d'autres domaines. C'est rencontrer de nouvelles personnes, voilà, c'est penser des projets ensemble. C'est hyper moteur en fait. Enfin, moi, je sais que c'est ce qui me motive au quotidien pour venir travailler à Aide d'accueil.
C'est l'humanité en marche là.
C'est exactement, et c'est quelque chose qui s'arrête jamais en fait.
Merci beaucoup Sylvie pour ce témoignage et le tableau que vous venez de nous brosser de votre action du comté dans lequel vous l'exercez, continuez à l'exercer le plus longtemps possible.
Voilà. Merci à vous.
C'était Solidaire Monde, l'émission préparée par le collectif Solidaire Monde. Et merci de l'avoir écouté. Vous pourrez la réécouter en podcast sur www.radio-g.fr. La prochaine émission aura lieu le jeudi 23 janvier de 19h à 19h30 et donnera la parole à l'association COWAT qui parlera de la maîtrise citoyenne de la production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, c'était Jacques à la technique et André à l'animation. À bientôt.